Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour Virginie.
Bonjour. Comment vas-tu Charlotte?
Très bien, merci. Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. On va commencer ce live donc sur les conflits au sein du couple. Mais comme toujours, avant de commencer un live, Virginie, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît.
Donc, je m'appelle Virginie Augias. Je suis formatrice, coach et thérapeute. J'exerce sur le secteur de Bordeaux et plus particulièrement sur Cadojac. Et je fais également de la thérapie en ligne pour les adolescents, les adultes, les couples et les familles.
Merci, merci Virginie pour cette présentation. Donc, on va aller directement dans le vif du sujet aujourd'hui, les conflits au sein du couple. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un conflit de couple, Virginie?
Alors, un conflit, c'est une opposition de position. Le mot conflit vient du latin conflictus, qui signifie heurt-choc. Et de ce fait, on peut considérer qu'il peut y avoir un conflit qui peut revêtir une forme positive, puisqu'on va être dans le bon heurt, H-E-U-R-T, ou alors on va être dans le mal-heurt, et qui va du coup signifier plutôt une forme négative du conflit. Dans le conflit, il est important peut-être aussi de faire la distinction entre conflit et violence conjugale. Oui. Pour ça, il existe quatre critères pour pouvoir justement un petit peu repérer les différences entre un conflit et des violences conjugales. D'accord. Ces critères, donc je vais vous les citer, plus simple aussi pour le repérer. Le premier critère, ça va être la notion de pouvoir. Dans le conflit, il y a une absence totale de pouvoir dans le désaccord. Alors que là, la différence, c'est que justement dans la violence conjugale, l'auteur va avoir une tendance à prendre l'ascendant sur l'autre et à avoir une certaine domination qui, du coup, là, on est vraiment sur une autre forme. Le conflit n'est pas une sous-catégorie de la violence. C'est vraiment de nature différente et c'est pour ça que les critères permettent vraiment de les distinguer. Donc, le deuxième critère, c'est l'intention. Quand il y a un désaccord, et ça arrive dans tous les couples et même dans le domaine professionnel, dans les relations, on cherche à avoir raison. Ça peut arriver. Et en soi, il n'y a pas de violence et de relations malsaines à vouloir un petit peu affirmer sa position. Là où il va encore y avoir une différence, c'est quand l'auteur va avoir intentionnellement la volonté de nuire et de rabaisser ou de prendre l'ascendant sur l'autre. Le troisième critère va être la persistance qu'on pourrait associer à la temporalité. Quand il y a un désaccord, on ne planifie pas d'être en désaccord. On ne se dit pas, tiens, tel jour, on va se disputer, et puis voilà. Alors que dans les violences conjugales, il y a une certaine répétition, il y a un certain cercle vicieux qui peut s'installer, et même s'il n'y a pas forcément de programmation, il y a une volonté, en tout cas, de provoquer de la dispute, provoquer un conflit, et c'est ce qui, là, entraîne de la violence conjugale. Et le dernier critère, ça va être l'impact. À partir du moment où chacun a la liberté de pouvoir s'exprimer, quand bien même il y a un désaccord, c'est OK. Là où, par contre, ça va être compliqué, c'est quand, notamment, la victime va avoir un sentiment de honte, de peur, de culpabilité, ne va pas pouvoir oser s'exprimer. Et du coup, ça peut produire une forme d'isolement et ça peut même conduire à des troubles psychiques qui, là, du coup, sont vraiment malsains dans les relations et peuvent être vraiment questionnants par rapport à des violences conjugales. Donc ça, c'est les quatre critères qui sont à retenir avec en tête cette question de domination et de pouvoir sur l'autre. D'ailleurs, je profite de l'aparté pour rappeler quand même qu'il y a un numéro, si jamais il y a des doutes aussi par rapport à vos modèles relationnels et comment vous fonctionnez dans votre couple, il y a un numéro qui est le 3919, qui est un site, on peut contacter gratuitement et de manière anonyme pour pouvoir poser des questions et avoir un échange. Donc c'est peut-être aussi le premier pas, si jamais il y avait un doute par rapport à ça. Par rapport au conflit, j'apporte aussi peut-être une précision. qui va être celle de à quel moment on est dans notre relation. Et on constate que selon le quotidien, selon la durée de la relation, selon l'environnement familial ou professionnel, il peut y avoir des tensions à certains moments, personnelles et qui du coup peuvent se répercuter dans le couple, ou alors même des besoins qui sont insatisfaits et qui viennent là aussi impacter la relation. On distingue plusieurs phases de la relation. On appelle la première phase la phase lune de miel, un peu idyllique, où tout est beau, tout est parfait, l'autre est exceptionnel, ses défauts n'existent pas ou alors ils sont complémentaires de ce qu'on attend. Et du coup, ça donne un peu l'illusion de « ah ben, finalement, on n'est bien qu'à deux » ou « on est bien en cherchant effectivement la fusion et la connexion à l'autre ». Donc ça, ça dure un temps. Et puis, arrive le moment où finalement, les défauts sont quand même présents et entravent parfois un peu le quotidien et les disputes peuvent émerger. Donc là, c'est le moment où le soufflet retombe. Et on passe dans l'autre phase, qui est la phase de différenciation, où il y a le besoin du coup de s'affirmer, du coup de se positionner vis-à-vis de l'autre, parfois de manière maladroite, et ainsi de suite, la relation peut un peu s'effilocher. C'est vraiment une phase qui est très particulière, parce que c'est souvent aussi dans cette phase-là que les relations peuvent s'arrêter ou que les disputes peuvent être vraiment récurrentes. Pour autant, c'est une phase normale pour pouvoir un petit peu s'apprivoiser et comprendre le fonctionnement de l'autre. La phase qui suit est une phase d'engagement où là, pour le coup, on vient vraiment affirmer qui l'on est et accepter l'autre aussi dans sa différence. L'idée, c'est pas d'être dans la fusion, mais d'être dans déjà la connaissance de qui on est soi pour pouvoir mieux interagir avec l'autre. Et donc, c'est se connaître et en même temps donner l'opportunité à l'autre de pouvoir aussi exprimer qui il est. Mmh. Et la dernière phase, qui est la phase d'interdépendance, où il n'y a pas de difficulté justement à accepter la différence de l'autre. Au contraire, on accepte que par moment, il y ait peut-être des périodes de flottement un petit peu et de divergence d'opinion, mais qui ne sont pas problématiques pour pouvoir poursuivre dans la relation.
D'accord, intéressant. Merci Virginie d'avoir bien expliqué en détail, est-ce que les conflits sont sains au sein du couple?
Alors oui, à la condition quand même, je vais nuancer, de pouvoir écouter. Et écouter, j'insiste là-dessus, c'est pas juste entendre. C'est pas on te met en position de « ok, ben j'entends ce que tu me dis » et ça passe par une oreille et ça ressort par l'autre. L'écoute, c'est prendre en considération aussi les différences, prendre en considération que ben, l'idée, ce n'est pas forcément systématiquement d'arriver à un accord commun, mais d'accepter qu'on soit sur des pensées et des fonctions, des fonctionnalités différentes. Il y a une chose qui peut être importante par rapport à ça, c'est de préciser aussi la différence entre compromis et consensus.
D'accord.
Le compromis suppose qu'en fait, un partenaire vient céder quelque chose, une proposition, et que l'autre accède à cette proposition. Donc ça peut générer un sentiment un peu parfois de frustration. Là où il y a peut-être un avantage, et le compromis en soi, il est tout aussi valable que le consensus, à partir du moment où c'est pas toujours le même qui cède.
D'accord.
Si c'est toujours le même, c'est effectivement, il faut peut-être s'interroger sur pourquoi c'est toujours moi qui fait l'effort et que l'autre campe sur ses positions, là, ça peut générer un déséquilibre. Le consensus, lui, je le trouve un peu plus neutre dans le sens où c'est une proposition qui va émerger des deux partenaires. Les propositions initiales, d'une certaine manière, sont mises de côté et ensemble, on crée une proposition commune qui va répondre aux besoins de l'un et aux besoins de l'autre. Donc ça peut... Je trouve que ça peut être une bonne amorce pour pouvoir justement trouver un terrain d'entente.
Oui, c'est sûr. Bien faire la différence entre le consensus et le compromis, du coup. Donc voilà,
exactement.
Plus le consensus que le compromis, si j'ai bien entendu.
C'est ça.
Alors, comment on peut désamorcer un conflit de couple?
La première chose, ça va être d'être dans le respect. Donc, si je refais un peu le lien avec l'introduction et les violences conjugales, où il n'y a pas de respect, et il y a vraiment une domination et un pouvoir, une emprise sur l'autre, c'est que là, le respect suppose, encore une fois, qu'on soit dans l'écoute et le respect des divergences d'opinion. Il faut aussi se respecter soi-même. Avant de se dire « je suis en capacité de respecter l'autre », c'est, comme je l'ai dit, se connaître soi et se respecter soi-même. Donc, respecter ses besoins, respecter ses limites, identifier aussi ses valeurs pour veiller à ce que l'interaction et la connexion avec l'autre puisse être aussi valable. Si on a des valeurs opposées, ça peut être compliqué. Mais c'est pas suffisant. Ce qu'on peut aussi apporter pour désamorcer un conflit de couple, il y a une méthode que j'aime beaucoup qui est la communication non violente, qui est un outil qui a été développé par Marshall Rosenberg et qui s'appuie justement sur, on évite, pour faire un peu rapide et pour, de manière un peu caricaturale, c'est on évite le tu qui tue. Donc pour ça, on parle en jeu. On parle de ce qu'on ressent, on parle de ce qu'on observe de manière factuelle. Et de cette manière-là, ça va permettre aussi à l'autre de rentrer davantage dans l'échange et de ne pas se sentir agressé. Donc ça permet aussi, cette méthode, de restituer la responsabilité de chacun. Quand il y a une dispute, un conflit, alors parfois ça arrive qu'en termes d'équilibre il y en a un qui abuse un peu plus hein, clairement, mais pour autant quand on vient creuser sur l'histoire de chacun, on peut voir qu'il y a des résonances qui font que là où nous on va trouver peut-être un déséquilibre, bah finalement pour l'autre ça va pas du tout résonner de la même manière. Et de pouvoir être justement dans cette communication non violente, c'est offrir à l'autre l'opportunité de comprendre pourquoi pour lui ça résonne de cette manière-là. Qu'est-ce que je peux dire ? Peut-être, je vais vous présenter quand même l'outil là, dans la communication non violente qui peut être intéressant. Ouais. C'est la méthode OSBD. OSBD pour O pour l'observation, donc on parle de ce qu'on observe, le S pour le sentiment. Du coup, moi, je ressens que là, quand on se dispute, bah, je ne suis pas très à l'aise avec ça, ça me fait peur. Le B pour besoin. Et du coup, bah, par rapport à mes besoins, je me sens agressée et j'aurais besoin qu'au contraire, il y ait plus de bienveillance, qu'on puisse se parler voilà, sur un autre ton, ou qu'on puisse décaler peut-être la discussion à un autre moment. Et on formule le D pour demande et exprimer à l'autre ce qu'on attend du coup de cette dispute ou en tout cas de ce désaccord. Donc ça, cette méthode, elle est, moi j'aime bien la rappeler, notamment dans les thérapies de couple, parce que ça permet aussi de remettre un peu de l'équilibre et vraiment de l'échange, où parfois ça peut être saturé quand il y a des conflits à répétition. Ça, voilà, ça permet de modifier en tout cas les modalités de communication et les modalités relationnelles. Peut-être aussi pour désamorcer le conflit, je me suis noté plusieurs petites astuces que je peux éventuellement partager.
Oui.
Y a le câlin, qui paraît peut-être anodin, et qui pourtant libère plein d'hormones. On a notre cerveau qui est très sensible aussi et qui a des capteurs. Et pour le coup, le câlin va favoriser la sécrétion d'endorphines, d'ocytocine, de dopamine, de sérotonine. Enfin voilà, il y en a toute une tripotée. Et à partir du moment où on est vraiment dans l'enveloppement et la bienveillance, c'est pas je te prends dans mes bras et voilà, t'es contente et ou t'es content et on passe à autre chose. Non, il faut vraiment avoir l'intention en tout cas d'envelopper, de se prendre dans les bras, une durée un peu suffisante. Hein, voilà, on peut se dire au moins 10 secondes où on se prend dans les bras, ça peut être pas mal. Donc ça a vraiment des effets sur la structuration et sur le fait de faire redescendre les tensions.
D'accord. Est-ce que c'est ensuite, un peu particulier parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop, on va dire, l'affection ou justement qui sont, quand ils sont déjà dans le conflit, l'énervement, oui. Le fait de se prendre dans les bras ou tout ça, c'est le trop, quoi.
Oui, c'est en ça où je disais de bien se connaître pour pouvoir aussi exprimer à l'autre ses limites. C'est-à-dire, ben, peut-être qu'il y en a un des deux qui va avoir besoin d'être enveloppé alors que l'autre, le contact tactile ne va pas du tout être favorable, mais de pouvoir peut-être aussi en dehors des conflits, se dire, bah écoute, là, quand on se dispute, moi, j'ai plutôt besoin que tu me fiches la paix et que je puisse un petit peu m'extraire de la situation, quitte à revenir après. Et l'autre qui va dire, bah oui, mais moi, j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin que tu me prennes dans tes bras. Donc, c'est d'être à ce moment-là peut-être dans le consensus. Bah, écoute, OK pour décaler 5 minutes. Par contre, dans 5 minutes, je reviens. Et voilà, on pourra se prendre dans les bras. Comme ça, je me serai un peu apaisée. C'est de trouver un peu de jauger en fonction de chacun ce qui est possible et ce qui est plus compliqué aussi.
D'accord.
Après, une chose qui peut paraître un peu anodine, mais qui a aussi des effets, c'est faire ses excuses. Faire ses excuses, c'est bien important de préciser que c'est pas se justifier. On n'est pas du tout dans je me dédouane de ma responsabilité ou alors c'est moi qui endosse toute la responsabilité. Non, c'est d'admettre qu'on a aussi une participation dans le désaccord, dans le conflit, et de pouvoir s'excuser si jamais on s'est emporté, pour encore une fois tendre une perche un peu à l'autre pour pouvoir rabaisser le niveau de conflit et faciliter à ce moment-là l'échange.
D'accord.
Ensuite, ce qu'on peut aussi envisager, ça va être de demander à l'autre ce qu'il a besoin. Souvent, on part du principe que ce que nous, on a besoin, ben, on le projette indirectement sur l'autre, alors qu'on ne fonctionne pas de la même manière. Et comme je l'ai dit, en fonction de notre histoire, on n'a pas les mêmes résonances et on n'a pas les mêmes besoins. Donc, de pouvoir demander à l'autre et de le solliciter sur bah, « Là, dis-moi, je vois que tu es énervé, tu as besoin de quoi ? Tu as besoin que je te laisse tranquille, tu as besoin qu'on parle, tu as besoin de te défouler et je sais pas, moi, d'aller courir pendant une demi-heure. » Mais de pouvoir mettre l'autre aussi dans la responsabilité dans ce qui est en train de se passer. Donc, de lui demander, de lui signifier « Ok, bah, là, j'observe qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. » Est-ce que moi je peux participer à quelque chose de manière constructive et toi qu'est-ce que tu peux mettre en place aussi pour pouvoir y contribuer. Après tu me disais le câlin, il y en a qui sont pas réceptifs, ouais. Il y a des moments il est nécessaire de décaler la discussion, c'est que c'est tellement à un niveau élevé où les tensions elles sont trop importantes qu'il y a des moments ça va être vraiment contre-productif que de maintenir la discussion. Et qu'il est préférable, au contraire, de se dire « Ok, ben là, on va prendre un peu de temps pour réfléchir et puis éviter de s'emporter et parfois de dire aussi des choses qu'on peut regretter par la suite. » Donc, de pouvoir décaler ce temps de discussion et en tout cas, d'accorder un point essentiel sur « C'est pas parce qu'on décale qu'on balaye et qu'on considère que ça n'existe pas. On revient sur ce qui s'est passé. » Même si c'est dans une temporalité décalée, mais on revient sur ce qui s'est passé et avec la communication non violente, on vient expliquer de quelle manière on a vécu la situation pour que là, à ce moment-là, on soit dans l'émergence d'un terrain d'entente et que ça puisse être favorable aux deux partenaires. Et une dernière chose, c'est la méthode qu'on appelle 555, qui va être éventuellement, ça c'est propre à chacun, il y en a pour qui ça va matcher, il y en a ça va pas le faire du tout. La méthode 5-5-5, c'est de se dire, je prends 5 minutes pour, j'accorde 5 minutes à un des partenaires pour qu'il s'exprime, ouais. Alors toujours avec quand même en tête, en arrière-plan, la communication non violente, et du coup 5 minutes pour que l'un s'exprime, 5 minutes pour que l'autre s'exprime, où on coupe pas la parole, on est vraiment dans l'écoute active, et 5 minutes ensuite où on est dans le dialogue pour pouvoir tendre justement à, encore une fois, une proposition qui serait plus acceptable pour les deux.
D'accord.
Ça, c'est des petits conseils comme ça qui peuvent vraiment désamorcer et amener un peu de flexibilité, en tout cas dans les échanges.
D'accord. Merci Virginie d'avoir appris un peu à désamorcer un conflit de couple. Alors la question suivante, du coup, je pense que tu as répondu aussi un peu largement, mais on va voir si tu as d'autres choses à rajouter. Comment gérer au mieux un conflit dans le couple une fois qu'on est dedans ?
Quand il y a le conflit, on a bien dit que c'était une opposition de position, du coup un déséquilibre. Donc pour vérifier peut-être si celui-ci est malsain, il y a les indicateurs, les critères que j'ai cités au départ sur les violences, la distinction entre violences conjugales et conflits. Et j'ai aussi listé des questions que je vais vous partager qui peuvent un petit peu aiguiller et voir si effectivement le conflit a pris des proportions qui ne devraient pas être acceptables ou au contraire, est-ce que c'est plutôt constructif. Donc je vous lis les questions.
Ouais.
Est-ce que je peux exposer mon point de vue et être écoutée ? La deuxième question va être, mon avis est-il pris en compte ? Ensuite, est-ce que j'ai peur qu'il ou qu'elle me fasse du mal si j'exprime mon avis? Est-ce qu'à la fin de la dispute, c'est toujours mon avis, son avis qui prime? Est-ce que j'ai tort dans les discussions? Est-ce que c'est tout le temps moi qui ai tort? Est-ce que il ou elle me tient toujours pour responsable des disputes? Est-ce que l'autre est en capacité de se remettre en question et parvient-il à l'exprimer? Est-ce que je m'abstiens de donner mon avis pour éviter les disputes? Et est-ce que sa réaction se conclut toujours par un mutisme? Ça, c'est des petites questions qui, selon les réponses qui vont être apportées, doivent un petit peu vous mettre la puce à l'oreille sur « là, il y a quelque chose de pas sain qui se met en place ». Et si c'est le cas, peut-être d'envisager d'autres solutions pour pouvoir éviter ces situations, justement.
D'accord. D'accord. Merci Virginie d'avoir aiguillé sur ce conflit qui peut devenir finalement malsain. On l'a vu. Par qui on peut se faire accompagner si on passe notre temps à se disputer?
Alors, il y a souvent le réflexe, et qui en soi est très pertinent, j'ai envie de dire, de pouvoir en parler à sa famille ou à ses amis. En tout cas, ce qui est important, c'est de ne pas s'isoler, de ne pas rester seul. Donc, si ça devient à un moment donné trop lourd en termes de charge émotionnelle, si ça ne suffit pas, si ces espaces-là ne suffisent pas, nécessaire de pouvoir à ce moment-là s'adresser à un professionnel. Quand il s'agit du coup des émotions qui vont être trop lourdes pour un des deux partenaires, à ce moment-là, ça sera plutôt une thérapie individuelle. Mmh. Et si jamais le conflit est récurrent et que les deux partenaires expriment la volonté de pouvoir aussi trouver des solutions et qu'ils n'y parviennent pas par eux-mêmes, à ce moment-là, c'est d'envisager une thérapie de couple pour avoir bénéficié d'un espace sécurisant pour que chacun puisse s'exprimer aussi en toute liberté et sans appréhension sur ce qu'il ressent et sur ce qu'il attend.
D'accord. On a une question qui revient généralement, Virginie, c'était soit des femmes, soit des hommes, moi aussi, plus généralement des femmes qui viennent nous voir, qui nous disent qu'elles aimeraient bien du coup venir parler de leur conflit, mais que le partenaire, lui, ne veut pas. Est-ce que dans ce cas-là, venir en thérapie seule, ça peut permettre déjà d'apporter un autre point de vue ou d'aider d'une avancée? Ou est-ce qu'il faut vraiment être adulte? Alors,
non, évidemment que déjà de pouvoir soi-même s'autoriser à exprimer et sans jugement, ça va forcément déjà avoir un impact et des effets positifs. Après, il est évident que oui, ça peut avoir un impact aussi indirect sur la relation, mais ça va potentiellement toucher à ses limites du fait qu'on n'est pas les deux protagonistes en thérapie et que les interactions, elles s'accompagnent aussi avec les deux personnes. Donc oui, il y aura des effets, ils seront peut-être en tout cas minimisés si jamais il y en a qu'un des deux qui est prêt à s'investir là-dedans.
D'accord. Merci Virginie déjà d'avoir répondu à toutes nos questions. Maintenant, on va regarder un peu les questions qui ont été posées jusqu'à maintenant. Alors, on a Camilia qui nous dit « J'ai peur de me disputer avec mon compagnon, qu'il me quitte parce que je suis agaçante. Comment arriver à que je n'ai plus peur de finalement d'avoir des disputes ?»
Effectivement, c'est la question de la peur. Et la peur répond souvent à des besoins qui sont insatisfaits ou en tout cas à des blessures du passé qui parfois trouvent leur origine dans l'enfance ou en tout cas dans des expériences qui ont pu être un petit peu infructueuses dans les relations précédentes. Donc c'est de travailler sur ses besoins. Quand il y a des peurs, c'est de travailler vraiment sur là, quel est le besoin insatisfait, pourquoi je demande à l'autre d'être rassuré et qu'est-ce qui fait que moi-même je ne parviens pas à me rassurer seule. Parfois l'autre a une part malgré tout dans ce qui se joue dans la peur, enfin, voilà, quand il y a eu par exemple de l'infidélité, du mensonge, de la trahison dans la relation, il est difficile effectivement derrière de donner toute sa confiance, mais l'autre n'est pas le seul critère et le seul responsable de ce qui se passe, et c'est en ça où soi-même on a aussi une part à jouer dans pourquoi je suis en difficulté là dans la relation et pourquoi systématiquement moi je le vois dans les thérapies, j'ai peur qu'il sorte, je suis jaloux, voilà, j'ai peur que ma copine ou mon copain s'expose à d'autres rencontres. C'est pas la première peur généralement, c'est pas celle qui est, c'est pas celle-là qui est significative. Ouais. Il y a d'autres peurs sous-jacentes. J'ai fait d'ailleurs, je me suis amusée là, à faire un petit réel récemment là-dessus sur la première peur qui était exposée et celle qui était un peu cachée.
D'accord.
Et on voit dans les thérapies en décortiquant un peu que finalement c'est pas la première qui apparaît.
D'accord. Merci, merci Virginie. Alors, on va regarder une autre question. Alors, on a Isor qui nous dit « Bonjour, quand au sein du couple, on a l'impression que l'autre s'éloigne, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pourquoi l'autre fait ça ?»
Alors, pourquoi ? Toutes les hypothèses sont possibles. Il n'y a pas une réponse généraliste. Pour autant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça va être de communiquer, de comprendre pourquoi l'autre s'éloigne. Est-ce que c'est en lien avec la relation ? Est-ce que c'est en lien avec ses besoins individuels ? Il peut y avoir par moments aussi de la fatigue. Au niveau professionnel, on peut être préoccupé par certaines situations et ne pas mesurer que du coup, il y a un impact dans la relation à la maison. Donc, de pouvoir signifier à l'autre ce que nous, on observe et lui demander voilà, de quoi il s'agit, quel est l'objet de cet éloignement, quel est l'objectif de cet éloignement. Et comme je l'ai exposé un petit peu dans la communication non violente, le solliciter sur voilà, de quoi tu as besoin en fait quand tu fais ça, est-ce que tu as besoin que je te laisse tranquille, est-ce qu'il y a besoin qu'on s'inquiète de la direction aussi qu'on prend, mais d'être vraiment dans le dialogue et dans l'échange pour comprendre ce qui se passe en tout cas.
D'accord, merci pour tes conseils. Alors, il y a beaucoup de questions, hein, mais on ne va pas toutes les faire, ah, ça c'est sûr, mais...
En tout cas, je peux y répondre, que les personnes n'hésitent pas à m'envoyer des petits messages à la suite, à me contacter, je répondrai avec plaisir.
D'accord. Il y a Fleur qui nous dit « Comment réussir à accepter les défauts du partenaire et lui faire accepter les siens ?»
Alors, je me refais la question. Comment réussir à accepter les défauts du partenaire et lui permettre d'accepter les siens ? Alors, je vais répondre du coup de manière un peu scindée aux deux questions. Comment réussir à accepter les défauts du partenaire ? Ben, j'ai envie de dire, il n'y a pas de recette magique. Enfin, c'est propre à chacun. Et si vous, à un moment donné, son défaut, il est compliqué à accepter, c'est de se dire, est-ce que c'est compatible finalement avec vos propres besoins et vos propres limites ? Il y a des moments, on ne changera pas, enfin, il faut partir du principe qu'on ne pourra pas changer l'autre. Ou en tout cas, si on cherche à le changer, c'est que déjà, à mon avis, ça prend une mauvaise direction. Donc, je partirai plus de soi-même, notre capacité à se positionner et à avoir aussi, être en conscience de ce qui nous fait vibrer et de ce qui, au contraire, nous est un petit peu épidermique pour savoir si c'est compatible ou pas. Et sur la deuxième question qui est lui faire accepter ses défauts, j'ai presque envie de retourner à une autre question, c'est quel est l'intérêt qu'il accepte ses autres défauts en fait ? Parce que on est comme on est, il n'y a pas de perfection, il y en a encore moins dans les relations humaines, mais en tout cas c'est de trouver cet équilibre, et l'équilibre c'est pas d'être sur un même pied d'égalité. L'équilibre, il peut aussi être à différents niveaux, à différentes strates. En tout cas, de considérer que l'autre a des défauts, ça me semble pour moi être une évidence, parce que soi-même, on ne l'est pas.
Oui.
On n'est pas parfait.
C'est sûr.
Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu. C'est une question intéressante, hein, qui, je pense, peut faire l'objet d'une disserte en philo. mais... Ouais, là tout de suite, je n'ai pas plus de réponses que ça.
Merci, merci Virginie déjà d'avoir essayé. On a Esrine qui nous dit « Comment gérer les conflits d'un couple qui vit une relation à distance ?»
La relation à distance, qui est un sujet de plus en plus répandu, et je le vois aussi, moi, par exemple, sur le développement des thérapies en distanciel, c'est déjà de comprendre est-ce que cette relation répond malgré tout à vos besoins ? Est-ce que c'est pour compenser quelque chose ? Est-ce que le fait qu'il y ait cette distance, c'est à court terme, c'est à moyen terme ? Est-ce que si c'est à moyen ou long terme, c'est quelque chose d'acceptable et d'envisageable ? par rapport au projet que vous pourriez avoir de construire une famille ou de vivre tout simplement aussi sous le même toit. Donc, c'est de veiller à ce que dans la temporalité, ça convienne bien à vos attentes respectives. Et du coup, gérer les relations à distance, c'est peut-être aussi parfois avoir des petits codes, ou en tout cas, ça, je pense que ça se met en place avec la complicité dans la relation, mais des petits codes sur, bah écoute, là, je sens que la discussion commence un peu à tourner au vinaigre. Je préfère qu'on puisse raccrocher et se rappeler dans de bonnes conditions. Et là, c'est aussi d'une certaine manière décalé, mais comme si vous étiez sous le même toit pour pouvoir communiquer de manière sereine et apaisée et envisager du coup de manière constructive une solution quand il y a un désaccord, y compris sur de la distance. Pour moi, la distance, elle n'est pas en soi problématique tant qu'il y a de la communication. C'est vraiment l'essentiel pour que la relation puisse perdurer dans de bonnes conditions.
D'accord. Merci Virginie d'avoir répondu à Nesrine. On a une question intéressante de Priscilla et on ne l'a pas vraiment abordée, mais ça peut entrer dans le cas des conflits. Comment gérer l'infidélité dans le couple? Est-ce que c'est possible de recommencer à zéro?
Non, ce n'est pas possible. Ah, est-ce que vous m'entendez?
Oui.
Pardon, je croyais qu'il y avait une coupure. Recommencer à zéro, non, ce n'est pas possible. On peut redémarrer là où ça s'est arrêté en prenant en compte ce qui s'est passé. Et pas juste balayer l'infidélité comme s'il n'y avait rien eu, parce que ça fait partie intégrante de votre histoire et la mettre de côté, ça serait ou alors banaliser ce qui s'est passé alors qu'il y a eu des impacts sur vos relations et même de manière individuelle d'un point de vue émotionnel. Donc repartir à zéro, non. Par contre, construire les choses autrement, en intégrant effectivement cette infidélité, oui, évidemment que c'est possible de maintenir une relation malgré une infidélité. Après, ça peut prendre du temps, c'est retravailler sur la question de la confiance, retravailler sur qu'est-ce qui a motivé cette infidélité, est-ce qu'il y avait un moment de flottement justement dans la relation, à quelle période vous en étiez, sur quelle phase un petit peu de la relation vous en étiez, est-ce que les besoins de l'un et de l'autre sont bien satisfaits. Donc au contraire, ça peut permettre parfois et je l'ai vu dans des thérapies de couple, de mieux repartir. Finalement, il y avait peut-être une absence de communication et cet élément déclencheur, bien qu'il soit souvent désagréable, va permettre de remodeler un petit peu le système de la relation et de pouvoir repartir justement de manière plus sereine et plus apaisée avec une communication qui sera renforcée. Donc, ça peut être bénéfique. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais ça peut être bénéfique parfois.
D'accord. Merci Virginie. On va terminer par une dernière question. J'en ai vu une qui était revenue plusieurs fois et qui revient à peu près. Malice nous dit « Comment faire si le partenaire il se braque et fuit la discussion et s'énerve rapidement ?» On a retrouvé beaucoup de questions sur le mutisme finalement de l'autre. Quand l'autre il est dans la position de mutisme ou de fuite ou qui se braque.
Alors, est-ce que la question à se poser, c'est est-ce qu'il est dans le mutisme un peu de manière permanente ou est-ce qu'il est dans le mutisme au moment où il y a une dispute? Si jamais c'est la première situation et que du coup c'est quelque chose qui est amené à revenir de manière un peu systématique, automatique dans le quotidien, pour le coup, il faut se questionner parce que à un moment donné, la communication est rompue, l'autre peut se sentir aussi complètement rabaissé. Il y a l'analyse transactionnelle qui peut être intéressante dans ces fonctionnements-là. J'en avais parlé lors du premier live sur les interactions entre le sauveur, le persécuteur et la victime, et de comprendre quelle place on occupe et quelle place l'autre occupe pour voir aussi comment les modalités relationnelles se mettent en place. Donc, en tout cas, si c'est la première hypothèse, il faut vraiment se questionner sur il y a quelque chose qui dysfonctionne. Si c'est la deuxième hypothèse, à ce moment-là, c'est peut-être de comprendre que c'est une modalité de fonctionnement de son partenaire et de l'inviter en tout cas à ce que dans un autre temps que celui de la dispute, vous puissiez revenir sur ce qui s'est passé tout en respectant son besoin à lui à ce moment-là de s'isoler. Après, je fais quand même une différence entre le mutisme, qui est aussi d'une certaine manière une forme de violence cachée et quelqu'un qui va être dans euh, je j'aboie fort, je suis un peu dans l'agressivité et du coup, je me coupe de la communication en étant dans le silence. Là encore, c'est aussi une force, une forme de violence qu'il ne faut pas banaliser. Si vraiment il y a cette question d'intentionnalité, je repense aux critères là, de violence conjugale, s'il y a une intentionnalité de nuire à son partenaire, c'est que là, il y a un problème et qu'il faut, il faut pas accepter et autoriser que ça puisse perdurer dans ces conditions-là.
Alors, c'est intéressant, Virginie, parce que justement, les différents témoignages que j'ai eus des femmes là, qui sont sur le groupe, elles me disent justement que la communication, finalement, elle se coupe après le conflit et c'est des communications qui se coupent pendant un mois, une semaine, quelques jours, mais finalement, c'est pour un peu la même souffrance.
Il y a un livre qui, je trouve, qui explique aussi les modalités relationnelles entre un homme et une femme. C'est les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, qui explique que on n'a pas les mêmes comportements. Et tout, le livre donne une lecture, mais j'aime pas faire de généralité en disant les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça. En tout cas, c'est une lecture d'un comportement et d'un fonctionnement qui explique que effectivement, par moment, les hommes dans le livre en tout cas, ont un besoin de se replier, ils appellent ça dans la grotte, dans la caverne, pour se remettre en énergie, pour pouvoir justement, eux, couper complètement de ce qui est en train de se passer, pour éviter d'être absorbés et impactés par la discussion, là où les femmes dans le livre vont avoir une certaine tendance un peu à pas lâcher le morceau, à vouloir discuter, et que c'est pas forcément... productif non plus. Donc, c'est de pouvoir respecter que il y en a qui ont besoin vraiment de s'extraire de ces situations et il y en a qui ont besoin de, au contraire, de discuter. Il y a un temps pour tout. J'entends que un mois, c'est quand même peut-être un peu long, là, pour le coup. Quand on est sur quelques jours, c'est OK. Un mois, ça me questionne.
Ouais.
Mais voilà, quand on est sur des délais, on va dire un peu plus acceptable, de se dire, ben voilà, il a besoin lui de fonctionner de cette manière-là. On est aussi dans cette phase un petit peu d'engagement et où on accepte que l'autre fonctionne différemment de soi pour pouvoir derrière, en tout cas, communiquer sur ce qui s'est passé. Mais ça fait partie d'un fonctionnement. Assez fréquent, notamment dans les thérapies de couple, c'est souvent des choses qui reviennent, effectivement.
D'accord. Merci Virginie d'avoir porté tes lumières sur le sujet. Merci d'être venue aujourd'hui pour nous parler des conflits au sein du couple. Je ne sais pas Virginie, si tu avais un message, un petit mot à faire passer.
Peut-être redire quand même, d'insister sur le fait que le conflit a aussi des effets bénéfiques. Ne pas le voir comme forcément quelque chose d'inquiétant dans la relation. Parfois, j'ai des couples qui viennent et au bout de 3 séances, finalement, ça apaise les inquiétudes et il y avait juste besoin de remettre des mots sur ce qui se passait. Oui. Donc, partir du principe que voilà, ça peut vraiment avoir des effets productifs de pouvoir se disputer. Ça remet les pendules à l'heure, j'ai envie de dire. Voilà, considérer que avant tout, il est important de se respecter soi et de respecter son partenaire. Si la question de respect n'est pas à l'honneur à ce moment-là, c'est que la relation n'a peut-être pas le mérite de pouvoir perdurer dans de bonnes conditions et qu'il est peut-être préférable d'envisager une autre solution.
D'accord. Merci beaucoup Virginie pour tous tes conseils du jour sur les conflits au sein du couple. Merci à toi, je te laisse quitter avec la petite croix juste au-dessus de toi et merci encore pour ta présence.
Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur @psychologue.net. Rendez-vous dans notre prochain podcast.